au XXe siècle. Comme disait tout à l'heure, il ne reste plus que 9 jours pour que des événements importants bouleversent toute notre vision de l'histoire de l'Église au XXe siècle, puisqu'on est à 9 jours de la fin du siècle. Mais bon, on n'en est pas encore là. On continue l'histoire du mouvement de Pentecôte mondial. Cette fois-ci, on avait vu le mouvement de Pentecôte français. Et notamment, nous allons voir ce matin les années de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire les années qui vont de 1920 à 1939. C'était une époque difficile parce que d'une part, il y avait eu la tourmente de la Première Guerre mondiale et quelque chose avait été cassé. On a vu ça la dernière fois. Quelque chose qui avait été cassé aussi sur le plan de la ferveur, la foi, l'élan du mouvement. Et cette période s'est trouvée enlisée dans des controverses doctrinales, des controverses humaines également, dénominationnelles, etc. Ça a été une période pas tellement emballante, pas tellement enthousiasmante. Seule, les églises des Limes étaient en progrès pendant cette période-là, mais autrement, on enregistrait une véritable stagnation du mouvement. En 1921, eut lieu à Amsterdam la première convention internationale donc du mouvement. Et cet état d'esprit négatif s'est tout de suite manifesté. Les Allemands, par exemple, les chrétiens allemands, pentecôtistes allemands, ont insisté énormément sur la mort à soi-même. C'était la note dominante de cette convention d'Amsterdam. Ils ont été rejoints en cela par les Suédois. Et les autres mouvements ont trouvé que cette insistance sur la mort à soi-même était excessive. Et par conséquent, au lieu d'être un temps de ressourcement, de réconciliation après ces années de guerre, la convention d'Amsterdam a été une première convention au cours de laquelle sont apparues des tensions, même si encore elles n'étaient pas très vives, parce que c'était quand même une doctrine sur laquelle tout le monde était d'accord, mais qui prenait une place excessive dans certains mouvements. Il y avait déjà des germes d'une certaine dissension qui se manifestaient là. C'est aussi au cours de cette convention que les Assemblées de Dieu du Canada ont fait part d'un problème qui était le leur, problème qui touchait aussi les Assemblées de Dieu du nord des États-Unis, proche de la frontière canadienne. C'était la question du rebaptême au nom de Jésus. C'était finalement une résurgence de la vieille hérésie modaliste des premiers siècles de l'Église, le 5e siècle en particulier, ou encore appelé sabellianisme, du nom de l'évêque Sabellius, qui en était le promoteur. Et cette doctrine, qui avait été réfutée par les pères de l'Église de cette période, prétendait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient différentes manifestations du Dieu unique, et que le Dieu unique pouvait se manifester tantôt sous la forme du Père, tantôt sous la forme du Fils, ou tantôt sous la forme du Saint-Esprit, un peu. C'était une image qui était prise par les théologiens, entre guillemets, pentecôtistes de cette période-là, et qui montre d'ailleurs le haut niveau qui était le leur, comme l'eau peut se manifester aussi bien sous forme solide, liquide, ou sous forme de vapeur. Bon, alors, à partir de là, les pentecôtistes canadiens, du moins les unitariens, comme ils se nommaient à cette période-là, constataient que si dans l'évangile selon Matthieu, l'ordre de baptiser implique l'invocation du nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nulle part dans le livre des Actes, cette formule trinitaire n'apparaît. Et les Canadiens concluaient donc que la formule du baptême était baptisée au nom de Jésus. Par conséquent, à partir de cette idée, on a contesté le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en disant que, somme toute, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit était le nom de Jésus. Et le mouvement a pris le nom de Jésus seul. Le mouvement était connu comme ça, sous le nom de Jésus seul. Alors, il y a eu une véritable vague de rebaptême. Des gens qui avaient été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ont été déclarés hérétiques par ces gens-là et ont donc été rebaptisés. Alors, ça a été une cause de division pour bien des églises, entre ceux qui acceptaient le rebaptême et ceux qui n'acceptaient pas, ceux qui acceptaient la Trinité et ceux qui la rejetaient, par conséquent, puisque c'était ça qui était en arrière-plan. Et donc, les églises, les assemblées de Dieu du nord de l'Amérique ont aussi été touchées par ce mouvement dit de Jésus seul. Bon, en Europe, à cette époque-là, la controverse n'a pas véritablement traversé l'Atlantique. Il fallut attendre, justement, après la Deuxième Guerre mondiale, pour que les conséquences de cette hérésie se fassent sentir aussi outre en Europe. Mais les Canadiens ont posé la question à la Convention d'Amsterdam parce que pour eux, c'était un véritable problème. Et on peut dire que cette controverse de Jésus seul a été le coup d'arrêt donné à l'expansion du mouvement de Pentecôte en Amérique du Nord, c'est-à-dire aux États-Unis et surtout au Canada. C'était le Canada qui a été le plus touché par ce mouvement de Jésus seul, mouvement qui existe encore aujourd'hui, tant et si bien qu'au Canada notamment, le mouvement de Pentecôte est divisé encore sur cette question. Bon, c'était une question tout à fait stupide parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce problème avait déjà été abordé par l'Église ancienne, l'Église des Pères, et l'hérésie modaliste avait été mise à mal déjà, notamment par le symbole de Nicée. Et c'est là justement qu'on se rend compte que si le mouvement de Pentecôte n'avait pas méprisé autant qu'il le faisait les travaux de ses devanciers, il aurait évité ce genre de controverse tout à fait stérile et destructrice. Et notamment, justement, Frédéric Godet, à cette époque-là, qui était donc un petit peu avant les grands théologiens réformés évangéliques neuchâtelois, avait démontré que la véritable formule du baptême était la formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en prenant comme référence le texte qui était utilisé par les unitariens eux-mêmes, le texte de Acte 19 sur le rebaptême des disciples de Jean à Éphèse, vous vous souvenez, c'est toujours évidemment à partir de ce texte-là que les unitariens essayaient de convaincre ceux qui avaient été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qu'ils devaient être rebaptisés au nom de Jésus seul, puisqu'il est dit que Paul rebaptisa en quelque sorte ces gens au nom de Jésus, puisqu'ils n'avaient été baptisés que du baptême de Jean. Frédéric Godet a démontré que il y avait donc l'invocation du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour une bonne et simple raison. C'est que donc quand il rencontre ses disciples de Jean à Éphèse, Paul leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et les Johannites de répondre « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ah, cette réponse amène immédiatement une deuxième question de l'apôtre Paul. Ah bon, si vous n'avez pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit, alors donc, de quel baptême avez-vous été baptisé? La réponse des Johannites amène la deuxième question de Paul. Pourquoi? Dit Frédéric Godet, pour une raison très simple. C'est que si ces gens avaient été baptisés du véritable baptême, ils auraient entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, même s'il l'avait pas reçu, pour une bonne et simple raison, c'est que le nom du Saint-Esprit est invoqué sur le moment de la formule du baptême. Donc, la formule du baptême est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ajoutons aussi que dans cette controverse, il y avait un autre point qui était sous-jacent. C'était tout simplement l'inspiration de l'Écriture. Car si on n'avait pas le droit de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quid de la fin de l'évangile de Matthieu, où Jésus dit de baptiser les disciples qui auraient cru au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de fait, les unitariens canadiens prétendaient que ce verset était extrapolé, n'était pas inspiré, n'était pas biblique. Et dans leur désir de se montrer en quelque sorte plus collant plus à l'écriture, finalement, ils entraient dans la voie du libéralisme théologique. Alors, voyez-vous, là, on était dans quelque chose d'extrêmement délicat. Heureusement, que encore une fois, ce mouvement s'est arrêté et n'a pas traversé l'Atlantique. À cette époque-là, ça aurait pu faire de gros dégâts en Europe si c'était venu dans le mouvement de Pentecôte européen. Par contre, dans le mouvement de Pentecôte européen, et notamment en Grande-Bretagne, dans l'Église apostolique, une autre controverse a éclaté, c'était la question de la réconciliation finale. Ça aussi, c'est une vieille tarte à la crème qui a été traitée aussi dans les premiers siècles de l'Église et qui revient cycliquement. Et c'est la question, donc, de l'enfer, finalement. L'enfer est-il compatible avec l'amour de Dieu? Ça, c'est l'éternelle question. Comment Dieu peut-il condamner à des souffrances éternelles des gens qui, somme toute, n'ont péché que pendant quelques dizaines d'années sur la terre? Le châtiment, disent les partisans de cette doctrine, est disproportionné par rapport à la gravité de la faute. Comme si, d'ailleurs, nous, êtres humains qui, comme dira l'apôtre, comme dira Job, buvons le péché comme de l'eau, sommes qualifiés pour juger de la gravité du péché. Bon. Alors, pour atténuer justement ce scandale, entre guillemets, scandale qui est d'ailleurs un scandale pour l'homme moderne, cette fin du XXe siècle, puisque un homme comme Jean de Lumeau, écrivain, théologien catholique, affirme qu'il ne faut plus du tout parler d'enfer aujourd'hui si le christianisme veut être crédible et demande aux autorités catholiques donc d'abolir le dogme de l'enfer. Et donc, il y a deux manières de résoudre cette question. Le premier, c'est l'universalisme, l'universalisme théologique, qu'on trouve par exemple chez un homme comme Karl Barth, pour ce qui est des théologiens européens du XXe siècle, à savoir que l'enfer n'existe pas, que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, et que par conséquent, tous les hommes sont sauvés par le sacrifice de Jésus, qu'ils le sachent ou qu'ils ne sachent pas, qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas. Et que l'évangélisation n'est pas d'inviter les hommes à recevoir Jésus-Christ et le salut qu'il offre, mais à leur annoncer qu'ils sont sauvés et les inviter à se réjouir de ce salut. Avouons que ce genre de préoccupation n'est pas de nature à empêcher de dormir les prédicateurs de l'Évangile. Hein. Bon. C'est pas du tout ce que prêchait Finet ou des choses comme ça. On est très loin, bien sûr. Moody ou d'autres, ou les grands évangélistes du siècle précédent. Donc ça, c'est l'universalisme. L'universalisme qui a gagné la quasi-totalité de l'Église réformée dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, à la suite, justement, de la théologie de Karl Barth. La deuxième manière de résoudre ce conflit, toujours « conflit » entre guillemets, c'est justement la doctrine de la réconciliation finale, qui était celle des pentecôtistes anglais, du moins de certains de l'Église apostolique. Oui, il y a bien un enfer, parce que, quand même, le péché, c'est quelque chose de grave, et puis il y a quand même des textes qui sont clairs sur la gravité de la situation de ceux qui meurent sans avoir accepté Jésus-Christ dans leur vie, chose que Karl Barth voulait oublier. Mais l'amour de Dieu est tel que ce châtiment ne sera pas éternel. Et on discute sur le mot olam, ça, éternité, avec le grec correspondant à Ion, bon, qui est la traduction grecque du mot hébreu olam. Il est vrai que, d'une manière théorique, disons, le mot olam peut signifier temps très long. Hein. Mais très souvent, dans la Bible hébraïque, le mot olam est redoublé. Le olme olamim. On se contraduit en général par d'éternité en éternité, que les auteurs du Nouveau Testament ont traduit de la même manière, aionos, aionia, quelque chose comme ça, le siècle des siècles, n'est-ce pas? D'ailleurs, on trouve ça dans la prière du Notre Père aussi, à toi pour les siècles des siècles. Là, il n'y a pas de problème, c'est l'éternité. Alors donc, en jouant sur le mot olam, qui peut signifier durée de temps très longue, mais pas éternelle, les apostoliques anglais ont dit il y a, après un temps de purgation finalement, Parce que la doctrine de la réconciliation rejoint la doctrine d'un purgatoire pour tous les hommes. Au bout d'un temps très long, eh bien, le Seigneur rétablira les damnés qui se seront rendus compte, grâce à ce temps terrible qu'ils auront passé, de la gravité de leurs fautes et de leurs péchés, qui donc se repentiront et puis qui seront réconciliés. Satan lui-même, d'ailleurs, sera lui aussi sauvé, réconcilié par ce moyen-là. Bon. Lorsque je me trouve en Angleterre, dans les années 60, ce problème venait juste d'être résolu et avait gagné des églises apostoliques, les églises de Pentecôte officielles, à l'Assemblée de Dieu notamment. Et je me souviens d'un pasteur âgé qui avait vécu cette période-là, qui avait été exclu des Assemblées de Dieu d'ailleurs, pour cette hérésie-là, qui avait ensuite été réintégré parce que soi-disant qu'il avait donc mis de l'eau dans son vin, et qui en fin de compte était tout à fait dans cette perspective-là. Donc c'était quelque chose qui était qui a eu un gros impact sur la Pentecôte anglaise. Bon, évidemment, la plupart des pentecôtistes anglais, notamment Donald G., se sont opposés à cette doctrine de la réconciliation finale, mais il y a eu des divisions, il y a eu des tensions, il y a eu des cassures, il y a eu des ruptures. C'est toujours ce qui se passe dans ces cas-là, c'est l'œuvre du diable, bien sûr, l'hérésie. Il y a aussi eu alors des problèmes plus terre-à-terre, 1923 par exemple, les Gallois ont voulu prendre leur autonomie au sein des assemblées de Dieu britanniques, les assemblées de Dieu britanniques qui groupaient tous les peuples britanniques, Assemblies of God of Great Britain and Ireland. C'était dans les années 60, quand j'étais là, la désignation officielle. Assemblée de Dieu de Grande-Bretagne et d'Irlande. Bon. Et les assemblées de Dieu galloises ont voulu faire sécession et devenir les assemblées de Dieu du pays de Galles. Et qu'elles seraient membres des assemblées de Grande-Bretagne en tant que branche galloise des assemblées de Dieu britanniques. Enfin, voyez-vous un petit peu le niveau du débat. Là, on est vraiment au ras des pâquerettes. Et les autres membres des assemblées de Dieu ont refusé tout net cette volonté de sécession des assemblées de Dieu galloises. Et donc, le débat a duré de 1923 jusqu'en 1929, où, en fin de compte, les Gallois ont fini par laisser tomber. Donc c'était cette année-là, enfin l'année suivante, en 1923, que à Birmingham ont été créées les Assemblées de Dieu de Grande-Bretagne et d'Irlande. La première convention de ce mouvement a eu lieu à Cardiff le 8 et 9 mai 1924, et le pasteur Nelson Parr a été nommé président des Assemblées de Dieu. Et Donald G. a été nommé secrétaire, rédacteur de la revue officielle du mouvement qui s'appelle encore, si je ne m'abuse, Redemption Tidings, Nouvelle de la Rédemption. À cette époque-là, il y avait à peu près 70 assemblées dans le mouvement. Il y en a eu beaucoup plus depuis, dont à peu près la moitié au pays de Galles. C'était évidemment les conséquences du réveil du début du siècle qui s'était manifesté là. Les assemblées de Dieu qui ont été créées en 1924 en Grande-Bretagne se sont trouvées immédiatement en conflit, cette fois-ci non plus à l'intérieur de leur mouvement, mais à l'extérieur de leur mouvement, avec l'autre mouvement de Pentecôte anglais qui s'était regroupé autour du principal Jeffreys et qui s'appelait le mouvement Ilim, du nom de l'oasis du désert du Sinaï dans lequel les Israélites avaient campé à un moment de leur sortie d'Égypte et qui était en opposition finalement avec les assemblées de Dieu. Ils étaient en opposition sur deux points. Le premier concernait le signe du baptême dans le Saint-Esprit. L'assemblée de Dieu insistait sur le caractère normatif du don des langues comme signe évident du baptême dans le Saint-Esprit, tandis que les églises d'Ilim, jusqu'à ce jour d'ailleurs, pensent que d'autres dons spirituels peuvent aussi être des signes de la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. La deuxième pomme de discorde entre les assemblées de Dieu anglaises et les églises d'Ilim portait sur le gouvernement de l'église. Les assemblées de Dieu, comme les assemblées de Dieu de France d'ailleurs, insistaient sur l'autonomie des églises locales, tandis que les églises d'Ilim avaient une organisation beaucoup plus centralisée, beaucoup plus pyramidale. Bon, voilà, alors c'était évidemment très grave, vous comprenez, pour qu'il faille se diviser, c'était évident. Bien. Dans les années 30, alors que dans l'Europe occidentale, on se débattait dans ces problèmes-là, a eu lieu, dans l'Europe de l'Est et en Russie, une puissante visitation du Saint-Esprit, entre 1930 et 1935. De telle manière qu'à la fin de cette période, c'est-à-dire 1935, on a vu apparaître 350 églises pentecôtistes dans les pays de l'Est et la Russie, ce qui représentait 80 000 membres environ. Jusqu'en 1939, de 1935 à 1939, il y a eu 500 assemblées de Dieu qui se sont créées pour le seul pays de la Pologne. Donc, puissant réveil du Saint-Esprit à cette période-là. Le mouvement polonais s'est tellement développé dans un milieu très catholique, ce qui d'ailleurs est très intéressant parce que il n'y a pas eu de choses équivalentes en France, pays pourtant catholique aussi. Et il a fallu donc, on a créé à Danzig, à cette époque-là, ça s'appelait Danzig, aujourd'hui ça s'appelle Gdansk, n'est-ce pas, une école biblique qu'il a fallu fermer en 1938, au moment où la ville de Danzig a été intégrée au Reich allemand. C'était la fameuse crise, une des crises qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons vu comment, en 1930, donc, Douglas Scott est arrivé en France et donc a commencé un travail dans le nord de la France, la Belgique, la Suisse romande, puis ensuite le sud de la France. Bon, ça, je n'y reviens pas. En 1935, a eu lieu une deuxième conférence mondiale de Pentecôte en Norvège, sous la présidence du pasteur Barat. Et là, le pasteur Barat était conscient qu'il était indispensable de maintenir l'esprit de réveil dans cette période qui était une période de consolidation du mouvement. Pour ce faire, on a créé des conférences annexes. Et notamment, en 1937, il y a eu une conférence missionnaire pour essayer d'unifier un petit peu le travail qui se faisait d'une manière anarchique par tous les mouvements de Pentecôte du monde, qui avaient tendance un peu à se marcher sur les pieds dans les champs missionnaires quand il y avait plusieurs, il y a des assemblées de Dieu américaines qui se trouvaient en concurrence avec les assemblées de Dieu anglaises, des mouvements de Pentecôte suédois, Suède c'était pas les assemblées de Dieu, ça s'appelle mouvement de Pentecôte, etc., donc, pour essayer d'harmoniser un peu ces violons-là, a eu lieu donc cette conférence missionnaire de 1937. La dernière conférence mondiale de l'avant-guerre a eu lieu en 1939, et il a fallu attendre donc 1946, donc l'après-guerre, pour qu'on assiste à une nouvelle convention mondiale du mouvement de Pentecôte. Aux États-Unis, donc, il y avait l'essentiel du mouvement de Pentecôte qui était concentré, malgré la stagnation que nous avons notée, de telle sorte que déjà l'Amérique du Nord avait pour elle la majorité des missionnaires pentecôtistes qui sortaient d'Amérique du Nord. 600 missionnaires, rien que pour les assemblées de Dieu anglaises, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les champs missionnaires étaient l'Afrique, l'Inde et l'Amérique latine. En Amérique du Nord, les Assemblées de Dieu comptaient 15 000 pasteurs à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, encore beaucoup plus d'églises locales, bien sûr. Dans ces années-là aussi, on a commencé à faire des conférences de Pentecôte régionales, c'est-à-dire... au lieu que ce soit mondial, c'était à l'échelon du continent. Notamment, il y a eu une conférence de Pentecôte européenne qui s'est créée. En Europe, Les deux seuls pays où le mouvement de Pentecôte était vraiment en progression, mis à part la France et la Pologne, l'Europe de l'Est, n'est-ce pas, c'était la Suède. La Suède, où en 1949, la seule église de Philadelphie, à Stockholm, qui était la plus grande église de Suède, comptait 6 000 membres, sous la direction du pasteur Lewis Petrus. Lequel, vous vous en souvenez, avait été exclu des églises baptistes dès l'année 1913, et dans ces années qui n'ont pas été interrompues par la guerre, puisque vous savez que la Suède a eu le privilège de rester en dehors du deuxième conflit mondial, si bien que justement, il n'y a pas eu de nouveaux coups d'arrêt, comme ça a été le cas un peu partout en Europe, et même dans le monde à cette période-là. Et le pasteur Lewis Petrus a continué à développer l'œuvre, notamment les œuvres sociales. Dans cette période, il a surtout développé cet aspect des choses. C'était quand même pour la Suède une période de récession économique, parce que bien que la Suède n'était pas engagée dans le conflit, il en subissait quand même les contre-coups, et notamment sur le plan économique. Donc il y avait de très nombreux chômeurs à cette période-là, de nombreux sans-abri. Et le pasteur Petrus a organisé des repas gratuits pour ces gens-là, des abris pour ceux qui étaient dépourvus de toit. Et puis une école biblique qui regroupait 400 à 500 personnes, mais qui était une école biblique très particulière. Lewis Petrus était contre le système de l'école biblique en soi, et l'école biblique était essentiellement composée de périodes de plusieurs semaines, de stages intensifs, de cours intensifs de plusieurs semaines, qui se tenaient d'ailleurs à Philadelphie, à de Stockholm en général. Le pasteur Petrus lui-même jouait un rôle prépondérant dans ce domaine, mais il était bien sûr secondé aussi par d'autres pasteurs. Et puis ensuite, les jeunes stagiaires retournaient dans leurs églises en stage pendant plusieurs mois. Et il y avait ensuite, 6 mois après, une nouvelle période d'études, etc. C'était comme ça qu'il fonctionnait. Parmi les ouvriers qui étaient formés dans ces stages, il y avait aussi des missionnaires. Et bien que l'Amérique a eu la part du lion, la Suède venait ensuite, quant au nombre des missionnaires de Suède, sont sortis donc dans ces années-là, jusqu'en 1949, 140 missionnaires, dont certains sont allés aussi en Russie, aussi longtemps que la Russie a été ouverte, c'est-à-dire avant la révolution d'octobre, bien entendu. Le mouvement de Pentecôte s'est aussi développé considérablement en Amérique du Sud pendant cette période. En Amérique du Sud, où là aussi la guerre s'est fait beaucoup moins sentir. C'était le cas notamment au Brésil, où jusqu'en 1941, il y a eu 550 assemblées de Dieu qui se sont créées. Et en 1941, il y avait 1 million de pentecôtistes au Brésil, dans une terre essentiellement catholique. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire du 5 au 12 juillet 1939, a eu lieu la dernière convention mondiale de Pentecôte avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était d'ailleurs la dernière convention qu'a présidée le pasteur Barat, puisqu'il est mort peu de temps après. C'était juste avant sa mort. Et pendant, évidemment, les années de guerre, toutes ces relations ont été remises en cause. C'est le 21 octobre 1945 que le pasteur Lewis Petrus a créé un journal qui s'appelait Dagen, et qui était un journal, comment dirais-je, laïque, quoi, qui donnait des nouvelles de tout. Comme un journal, comme le journal que vous achetez le matin, comme Ouest France ou Télégramme, etc. Bien entendu, c'était un journal pentecôtiste, et s'il donnait des nouvelles de tout ce qui se passait dans le monde, dans le pays, etc., il avait aussi une rubrique religieuse au travers de laquelle le pasteur Petrus faisait passer le message de l'Évangile. Notamment, il écrivait presque systématiquement les éditoriaux du journal. On peut se demander d'ailleurs comment un tel homme pouvait trouver autant d'énergie pour faire autant de choses. Quand on voit tout ce qu'il avait sur les épaules, n'est-ce pas, on se dit que c'était un homme véritablement exceptionnel. En 1947, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un pasteur pentecôtiste anglais, Fred Squire, qui était aussi évangéliste, a créé un l'Institut biblique pour la formation de missionnaires, International Bible Training Institute, Institut biblique de formation, Institut de formation biblique internationale, en abrégé IBTI, IBTI si vous voulez. Et Fred Squire, à partir de l'équipe de jeunes, qui c'était en fin de compte, c'était un institut biblique qui avait pour mission de former des ouvriers venant de tous les pays d'Europe. C'était pas quelque chose qui était anglais seulement, mais qui était européen. Fred Squire avait une vision pour l'Europe et il formait donc des gens qui venaient de tous les pays d'Europe. Certains repartaient dans leur pays avec le fardeau de l'évangélisation de leur pays. C'était notamment le cas pour l'Italie. Fred Squire a formé beaucoup de cadres de l'Italie, du mouvement de côté italien. Mais certains aussi partaient sur les champs missionnaires, Afrique, etc., etc. Et l'IBTI, donc, former des gens dans la langue anglaise. Fred Squire s'était rendu compte que déjà l'anglais avait une vocation de langue universelle, et notamment pour les missionnaires, il était indispensable d'apprendre l'anglais. Donc le niveau d'études était beaucoup moindre que, par exemple, dans les écoles bibliques officielles du mouvement des mouvements de Pentecôte anglais, c'est-à-dire les Assemblées de Dieu et les Églises d'Élim, ainsi que, si je ne m'abuse, les Églises apostoliques avaient aussi leur propre institut biblique. Enfin, du moins, je crois que ça a été très vite tout concentré sur le Danemark, à Kolding. Enfin, c'était la même vision. Tandis que l'IBTI formait des gens, évidemment, avec un niveau moindre, ne serait-ce que parce qu'il y avait justement le problème de la langue. Et donc, on était obligé d'enseigner dans une langue beaucoup plus simple que celle qui était utilisée dans les autres instituts bibliques. Et Fred Squire a créé donc toute une équipe de gens qui sont restés plus ou moins sur place, de tous les pays européens. Et pendant l'été, pendant les vacances d'été, ou même pendant les vacances de fin de trimestre, qui duraient en général 3 semaines en Angleterre, il y avait 3 semaines de vacances à Noël, 3 semaines de vacances à Pâques, et puis 2 mois d'été, l'équipe partait sur le continent. Et là, on plantait la tente en Belgique, en France, en Italie, etc. Et on prêchait l'Évangile. Il y a eu donc un effort d'évangélisation très important qui a eu lieu à partir de l'IBTI dans ces années-là, jusqu'au moment où Fred Squire est mort, donc à peu après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il a fallu attendre, en fin de compte, la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour que l'œuvre puisse porter son fruit en Italie. Lorsque, dans cette période-là, dans les années 20, c'est-à-dire peu de temps après la Première Guerre mondiale, Mussolini est arrivé au pouvoir en Italie, si je ne m'abuse, c'était en 1924, l'œuvre d'évangélisation en Italie a été pratiquement bloquée. Mussolini s'appuyait à fond sur l'Église catholique, qui le lui rendait bien, d'ailleurs. C'était une collaboration très fructueuse pour les uns comme pour les autres. Toute forme d'évangélisation non catholique était interdite en Italie sous Mussolini. Et donc, après la chute de ce dernier, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors le mouvement de Pentecôte italien a connu un gros essor. À partir de 1946, et Fred Squire et son équipe y ont contribué pour une bonne part, il y a eu un essor très rapide du mouvement de Pentecôte qui, au point de vue nombre, a rapidement dépassé le mouvement de Pentecôte français. Jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, le mouvement de Pentecôte italien est un des plus importants mouvements de Pentecôte européens. Ensuite, c'est dans ces années-là qu'est mort Smith Wigglesworth, âgé de 88 ans, et qu'a eu lieu donc en 1947 à Zurich la première conférence mondiale de Pentecôte, qui a eu lieu chez le pasteur Steiner, qui était présidé par le pasteur Steiner de Bâle. C'était les retrouvailles, donc, après cette terrible tourmente qu'avait été la Deuxième Guerre mondiale. Et là, conscient qu'il ne fallait pas renouveler les erreurs qui avaient marqué l'après-Première Guerre mondiale, le thème et la vision de tous les participants de cette rencontre de 1947, c'était à nouveau la marche en avant du mouvement de Pentecôte mondiale. Il n'était plus question de controverse doctrinale, de controverse d'hommes, mais bien justement du fardeau de l'évangélisation du monde, surtout qu'on était bien conscient qu'il y avait une faim, une soif pour tous ces peuples qui avaient été marqués justement par ce terrible conflit, et qu'il y avait là aussi tout un travail de reconstruction, y compris sur le plan social. Et c'est ainsi qu'on a décidé de créer un journal mondial, un journal pentecôtiste mondial, qui coordonnerait un petit peu tout ce qui se faisait dans le monde, qui donnerait des nouvelles du monde entier. Et c'est Donald G. qui a été nommé rédacteur de ce journal, qui a pris le nom de Pentecôte, Pentecôte, qui existe toujours d'ailleurs. On a décidé de se doter d'une structure permanente pour la conférence mondiale de Pentecôte. Il était décidé déjà dès 1921, dès la première conférence d'Amsterdam, que les conférences mondiales auraient lieu tous les 4 ans. Bon, les événements politiques avaient rendu impossible la périodicité qui avait été décidée, mais à partir de 1946-47, on a décidé de se tenir à ce rythme-là. Et donc un comité permanent qui avait pour but de coordonner un petit peu tout ce qui avait été décidé dans ces conférences mondiales devait rester en place. À la tête de ce comité, on avait décidé d'élire un secrétaire général qui, en 1947, se trouvait être un jeune pasteur sud-africain, David Duplessis. Et c'est donc à partir de la convention de Zurich qu'il y a eu un nouveau démarrage du mouvement de Pentecôte mondial. Jusqu'en 1953, qui a d'abord, les conférences mondiales ont donné au mouvement de Pentecôte une certaine reconnaissance de la part des autres églises, chose qui n'existait pas jusqu'à présent. D'abord parce que les hommes qui le représentaient, tels Donald G. ou David Duplessis, étaient des hommes d'ouverture, étaient des hommes de dialogue, étaient des hommes d'envergure humaine et spirituelle. Et il y a eu donc à ce moment-là une reconnaissance qui s'est faite progressivement, qui ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais qui a commencé à partir de cette fameuse conférence de Zurich. La conférence de Zurich s'est penchée aussi sur d'autres problèmes, c'est le problème des lieux de culte. Beaucoup de ces lieux de culte étaient en ruine à cause de la guerre, dans les pays qui avaient été marqués par la guerre. Et il y a eu donc tout un effort qui a été fait de solidarité. Les pays qui n'avaient pas été touchés par la guerre ont mis à la disposition de leurs frères, n'est-ce pas, des fonds, soit par des dons, soit par des prêts, pour pouvoir reconstruire et construire d'ailleurs de nouveaux lieux de culte ou reconstruire des lieux de culte anciens. C'est dans cette période-là aussi que des oppositions se sont manifestées. S'il est vrai que du côté des églises officielles, comme je disais tout à l'heure, il y a eu petit à petit une reconnaissance qui a eu lieu, les oppositions sont venues des milieux évangéliques fondamentalistes qui se sont dressés d'une manière très forte contre le mouvement de Pentecôte. Par exemple, bon, on a vu que en France, ça avait été le cas avec les églises, enfin plus exactement le mouvement des brigadiers de la Drôme, qui déjà avant la guerre avait pris position contre le mouvement de Pentecôte au nom justement du fondamentalisme qui était le leur. Mais en Suisse, par exemple aussi, des gens se sont dressés au nom de ce même fondamentalisme, et c'était le cas par exemple d'une organisation qui s'appelait l'Action Biblique, qui était basée à Genève et qui était présidée par un certain Alexander. Vous pouvez encore trouver ses écrits, d'ailleurs. Ils sont diffusés par les anti-pentecôtistes, les anti-charismatiques, notamment ceux qui avaient fait fureur à cette époque-là. C'était une petite brochure qui s'appelait « Christianisme ou pentecôtisme », dans lequel Alexander essayait de démontrer que le pentecôtisme était incompatible avec le christianisme véritable. Il y avait d'autres qui titraient d'une manière très spirituelle sur de cette manière l'évangile sans confiture, ce qui s'opposait au plein évangile qui était le slogan des pentecôtistes. la confiture étant en l'occurrence toute la dimension charismatique. Vous voyez comment on en était dans une haute teneur spirituelle. Bon. Cette opposition, justement, des évangéliques fondamentalistes se poursuit, on peut dire d'une manière générale, jusqu'à ce jour. En février 1949, on a aussi décidé de prêcher l'évangile par les ondes. Déjà, avait été créée une organisation à partir des États-Unis, qui s'appelait Transworld Radio, et qui a décidé d'ouvrir des branches en Europe, notamment à Monte Carlo, où a été créée une division missionnaire de cette organisation, d'ailleurs, qui existe toujours. C'est un pasteur suisse de la Suisse italienne, c'est-à-dire du canton du Tessin, s'appelait Enmar Hermann Parly, qui a été nommé donc responsable de cette organisation. Plus tard, Hermann Parly, au moment où le mouvement charismatique est venu en Europe dans les années 70, a rompu avec le mouvement de Pentecôte et est devenu très inféodé, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'Église catholique et aux radios qui sont marquées par le catholicisme. Ça ne s'appelle plus, c'est plus d'ailleurs en relation avec avec Transit Radio, mais c'était une organisation, il avait pris son autonomie déjà à cette époque-là, ça s'appelait, ça doit s'appeler toujours, si je ne m'abuse, Christ vous appelle. En 1948, donc, on avait décidé que la prochaine convention mondiale de Pentecôte aurait lieu à Paris. C'était l'époque où l'évangélisation de la France avait repris en grand sous la houlette de Douglas Scott, et il devait y avoir déjà, en mai 1949, un premier contact préliminaire qui devait avoir lieu dans l'église de la Cour des Noues, à Paris, dont le pasteur René Fauvel était le responsable. Et c'est alors que le secrétaire général du mouvement, David Duplessis, a été victime d'un très grave accident de voiture, et par conséquent, la conférence qui devait avoir lieu à Paris en a subi les contre-coups. Il a donc été décidé de remettre à 3 ans les prochains rassemblements. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, c'était d'ailleurs l'époque où on voyait apparaître dans ce pays ce qu'on appelait les évangélistes de masse. On aura l'occasion de revenir sur ce phénomène typiquement américain, c'est-à-dire des évangélistes qui étaient uniquement des évangélistes itinérants et qui rassemblaient des foules, des masses donc. Bon. Le premier de ces évangélistes s'appelait Billy Sunday, on aura l'occasion de revenir sur son cas, c'était au début du siècle. Mais le plus grand évangéliste de masse de cette période et de ce siècle, c'est bien entendu Billy Graham, qui d'ailleurs eut l'occasion d'avoir des contacts avec Billy Sunday. Billy Graham n'était pas pentecôtiste, mais dans le mouvement de Pentecôte, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et sous justement inspiré qu'ils étaient par le phénomène Billy Graham et l'évangélisation de masse, parce que Billy Graham n'était pas le seul, un certain nombre de jeunes évangélistes pentecôtistes se sont levés pour entrer dans cette forme de ministère qui était quand même très particulière aux États-Unis. Et c'est ainsi qu'on a vu un certain nombre de jeunes doués, d'ailleurs, pour ce genre de choses, qui se sont manifestés. Le premier d'entre eux était un certain Oral Roberts, qui était d'ailleurs originaire d'une église de sainteté, c'est-à-dire de type un peu méthodiste, ce qui faisait d'ailleurs qu'il avait une formation théologique solide, et qui a créé, donc, à l'image des autres évangélistes non pentecôtistes de masse, une organisation d'évangélisation qui avait pour but ce genre de choses. Ce qui faisait évidemment la particularité d'Oral Roberts par rapport aux évangélistes comme Billy Graham ou Billy Sunday ou d'autres, c'était que lui annonçait le message, ce qu'on appelait à cette époque-là le plein évangile, même si c'est un terme très prétentieux que je n'aime pas, enfin c'était le terme qui était employé, et notamment qui avait un ministère de guérison. Et c'est absolument indiscutable que Oral Roberts avait ce ministère de guérison et qu'il a eu des guérisons importante et spectaculaire. Maintenant, évidemment, dans la deuxième partie de son ministère, Oral Roberts, un peu victime de son succès, a été amené à toucher à beaucoup de choses, la télévision ou des choses semblables, de telle sorte qu'il a eu des besoins d'argent de plus en plus importants, ce d'autant qu'il avait aussi des projets grandioses. C'était toujours un petit peu le problème de ces gens-là. C'était la marche par la foi, l'audace de la foi, mais on peut se demander si à certains moments c'était bien encore l'audace de la foi, si c'était pas un petit peu l'aventurisme humain. Et Oral Roberts avait eu aussi la vision de créer des ouvriers pour le monde entier et notamment pour la mission. Et pour ce faire, il avait voulu créer une université chrétienne qui aurait une vocation mondiale à Tulsa, où il avait son quartier général. Bon, c'est évidemment un investissement financier très lourd. Il a aussi créé des hôpitaux, des institutions diverses. Ça, on peut pas dire qu'il est resté les deux pieds dans le même sabot. Mais tout ça impliquait des fonds de plus en plus importants. Et on peut se demander jusqu'à quel point il n'a pas été amené aussi à employer des méthodes sur le plan publicitaire qui étaient quand même quelque peu discutables. Et ces évangélistes de masse, y compris Billy Graham, d'ailleurs il faut le savoir, avaient une coutume qui, au point de vue de l'évangile, est quand même très à mettre avec point d'interrogation très grand, n'est-ce pas ? Ce qu'ils appelaient les boucs de Judas. Les boucs de Judas, c'était des gens qui, souvent d'ailleurs, les évangélisations de masse se terminaient par un appel. Soit chez Billy Graham, les évangélistes non pentecôtistes, un appel à se convertir, donc s'avancer. Et là, il y avait des conseillers qui s'occupaient d'eux, qui les abordaient pour parler avec eux, etc. Bon, ça c'était très bien, rien à redire. Maintenant, les conseillers en question avaient ordre d'être les premiers à s'avancer au moment de l'appel du prédicateur, entre guillemets, pour amorcer la pompe, quoi. Bon, c'est des complices, quoi. Des complices qui font semblant d'acheter pour amorcer la pompe. Alors, chez Billy Graham, c'est à la limite, parce que ce sont les conseillers qui font ce rôle, mais c'est vrai que ils ont un badge, un macaron là, mais enfin, quand tout le monde est dans le même sens, c'est pas écrit dans leur dos qu'ils sont conseillers, quoi. Et alors, ils ont ordre d'être les premiers à s'avancer, comme s'ils répondaient à l'appel du prédicateur pour que les autres suivent aussi. Bon, passe. Ça, c'est limite. Chez les évangélistes pentecôtistes, on est allé plus loin encore. C'était des gens qui faisaient semblant d'être malades et qui venaient à l'imposition des mains pour que l'on prie pour eux. Des faux paralytiques qui venaient avec des cannes et qui les jetaient, etc. Alléluia, un miracle extraordinaire a eu lieu. Bon, soi-disant que ça provoquait la foi chez les autres. Je veux bien, mais enfin, au point de vue droiture et au point de vue honnêteté intellectuelle, pour ne pas parler d'honnêteté tout court, c'était quand même très discutable. Bien, ensuite, Oral Roberts et surtout les évangélistes pentecôtistes sont entrés dans un cycle de « vous avez de plus en plus besoin d'argent » et Oral Roberts, notamment dans les années 70, a lancé cette idée de la graine de foi. C'est-à-dire que on investissait, Dieu lui aurait révélé qu'on pouvait investir dans son œuvre, comme dans une banque. Et que si l'on donnait, n'est-ce pas, au Seigneur, je ne sais pas moi, $100, eh bien, le Seigneur vous le rendrait au centuple. Comme, Isaac qui a semé, hein, vous connaissez le texte dans Genèse 26, et puis qui a récolté le centuple. Donc, vous me donnez $100, le Seigneur vous en rend 1000. Bon, alors évidemment, certains ont crié au scandale, peut-être pas sans raison d'ailleurs, n'est-ce pas, en disant que c'est une forme d'escroquerie, etc. Alors, il y avait aussi le problème du point de contact, il prêchait à la télévision, il fallait mettre sa main sur la télévision au moment où il lui mettait sa main aussi sur la caméra, donc il y avait un contact entre le prédicateur et puis celui qui regardait la télévision, enfin bon, il y avait tout un certain nombre de choses comme ça qui étaient discutables et discutées et qui ont contribué à discréditer pas mal ce type de prédicateur. Bon. Oral Roberts n'était pas le pire dans le genre. À cette époque-là, il y a eu d'autres aussi qui se sont levés, notamment T.L. Osborne, originaire aussi de l'Oklahoma, et qui a fait ses premières armes avec Oral Roberts, si je ne m'abuse, et qui lui aussi est devenu évangéliste missionnaire de masse. Il avait commencé comme missionnaire en Afrique d'ailleurs. Il était non pentecôtiste à cette période-là, c'était un évangéliste classique. Et puis là, il a échoué totalement. Il est donc rentré au pays pour tout laisser tomber. Lorsqu'il a rencontré Oral Roberts, et là, il s'est rendu compte que bon, il avait trouvé ce qui allait pouvoir redémarrer. Et il a créé une organisation d'évangélisation à l'image de Oral Roberts. Et il a commencé un ministère mondial, de fait, d'évangélisation de masse, notamment dans les pays du tiers-monde, Afrique, etc. C'est à ce titre-là qu'il est venu en France en 1958, dans la première convention gitane qui a eu lieu à Rennes. Puis il est revenu en Hollande quelques années plus tard, en 1962 ou 3, si je ne m'abuse. Il est revenu plusieurs fois en Europe. Il est revenu à Lille aussi pour les Gitans, à peu près dans les mêmes années. À cette époque-là, c'était un homme valable. Et il y a eu d'authentiques guérisons, d'authentiques miracles qui ont eu lieu justement par T.L. Osborne. Malheureusement pour T.L. Osborne, il a suivi le même chemin qu'Oral Roberts au bout d'un temps. Et alors, il y a eu tout un ensemble, toute une théologie extrêmement discutable qui est née de la part de ces évangélistes qui étaient des évangélistes et qui n'étaient pas des docteurs. Et ça a été le grand drame de ces gens-là. Ils se sont coupés de l'Église et alors ils ont dévié dans toutes sortes d'aberrations. Pour Osborne, c'était des objets. Alors il prenait le cas, vous savez, des linges qu'on mettait sur le corps de Paul et qui ensuite on les mettait sur les malades et les malades étaient guéris. Alors T.L. Osborne avait pris l'habitude de ces conventions, de prier sur des mouchoirs, sur des étoffes, des morceaux d'étoffes, etc., qui étaient ensuite découpés et qui étaient envoyés aux partenaires, évidemment, qui envoyaient des dons. Ça aurait mieux envoyé un don pour recevoir ce genre d'objet. Alors, on expliquait que, moi j'ai reçu ça, je me souviens, dans les années 60, que si on avait de la famille inconvertie, vous n'avez qu'à glisser ça sous son oreiller et vous étiez sûr qu'il allait se convertir dans l'année. Si vous aviez un malade, il fallait le mettre sur la partie malade et puis le malade allait être guéri, etc. Enfin, j'en passe des meilleurs, quoi. Hein. Dans une de ses campagnes en Inde ou je ne sais plus où, il a eu une résurrection de mort. Bon, un homme qui était mort, qu'on a déposé sur l'estrade, et il a prié pour lui, le mort s'est levé, etc. Bon, c'est tout à fait possible, ça, c'est. Mais à partir de ça, l'estrade est devenue quelque chose. Il a découpé cette estrade en petits morceaux, et il a envoyé des morceaux de cette estrade sur laquelle avait eu lieu ce miracle à tous ses partenaires, contre monnaie sonnante et trébuchante aussi, bien sûr, et avec les mêmes conseils, mettez ça sur les gens qui sont malades, etc. Bon, l'histoire ne dit pas combien ont été guéris, combien ont été sauvés après la suite de cette affaire-là. Mais enfin, lui, en tout cas, il manquait pas d'argent quand on voyait dans les voitures avec lesquelles il circulait. On est certain que, bon, c'est évident que c'est des choses qui ne passent plus du tout aujourd'hui. Il y a eu aussi un autre personnage qui, du même style, c'était donc Gordon Lindsay. Bon, même genre, envergure moindre, qui s'est éclipsé beaucoup plus vite. Autre aussi évangéliste, enfin c'était un homme très particulier, c'était William Branham, dont on a parlé la dernière fois, qui lui est devenu unitarien, mais qui n'était pas vraiment évangéliste, qui était plus prophète. Un homme qui a eu des guérisons absolument extraordinaires, remarquables, et qui était vraiment un homme de Dieu. Malheureusement, bon, il a été mis sur un piédestal par ceux qui l'entouraient, vu les extraordinaires bénédictions qu'il avait reçues. Il a dévié, il est tombé il est devenu Jésus seul, il a encore des partisans, il est mort bizarrement, d'ailleurs, dans un accident de voiture, et qu'il avait lui-même prédit. Et donc, bon, il y a encore des branhamistes. Parmi les unitariens, il y en a en France, il y a des branhamistes et des non-branhamistes. Bon, alors, ça, vous voyez, c'est complexe. Et puis, alors, plus près de nous, il y a toute une équipe de ce qu'on appelait les télévangélistes américains qui ont défrayé la chronique en son temps, tels Jimmy Swaggart, Baker, d'autres encore, qui ont eu des problèmes, soit des problèmes de mœurs, soit des problèmes d'argent, qui se sont retrouvés devant des tribunaux pour ce faire, et qui, évidemment, ont contribué à discréditer, en Europe en tout cas, ce genre de ministère. Aux États-Unis, ça continue. Ça continue parce que c'est un peu dans la culture du pays. Ça choque moins qu'en Europe. Mais plus ceux-là, bien entendu, ceux-là sont complètement discrédités. Mais plus ou moins, il y a toujours un peu ce mouvement de l'évangélisation de masse. Et notamment, justement, après les réveils charismatiques qui ont marqué les années 70, il y a eu de nouveau des choses comme ça qui ont eu lieu. Bien, en 1952, a eu lieu à Londres la deuxième conférence mondiale de Pentecôte, qui a mis l'accent essentiellement sur les missions, comme ça avait été le cas en 1948. Mais là, on a accentué encore davantage sur l'essor missionnaire. Et c'est au cours de cette convention de 1952 que David du Plessis a donné sa démission pour se consacrer entièrement à la tâche à laquelle il avait été appelé. Le Seigneur lui avait parlé quand il avait eu son accident quelques années plus tôt et lui avait demandé donc d'aller vers les églises historiques. Pendant ces 4 ans dans lesquels il s'est engagé à fond dans ce ministère-là, il avait été mal compris par les pentecôtistes et c'est pourquoi il a préféré donner sa démission donc en 1952 pour se consacrer entièrement à ce nouveau ministère. C'est cette année 1952 qui a vu les grandes campagnes de Thiel Osborne en Amérique centrale en particulier, où là où il y a eu effectivement des choses remarquables et des choses tout à fait étonnantes. Voilà, si vous voulez, donc pour toute cette période. De ces années d'après-guerre, d'avant-guerre, de guerre et d'après-guerre. Nous passons la prochaine fois à une nouvelle époque qui était celle des années qui devaient marquer alors une nouvelle stagnation du mouvement de Pentecôte. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce sujet?